Nous allons donc débuter la deuxième table ronde de notre colloque. Donc, il y a pour thème quel appareil de formation pour répondre à l'évolution de la profession. Donc, pour cette deuxième table ronde, j'ai le privilège d'accueillir donc toujours Monsieur Sansalon de la DGOS et du ministère de la Santé. Madame Mignon, qui représente l'Association des régions de France. Madame Kozlowski, qui est présidente du CEFIEC. Et enfin, Thomas Chrétien, président de l'AFNESI. Je vous rappelle que pour les ovations, il y a l'Assemblée Générale demain, où elles seront encore plus dans le ton. Sans plus attendre, je vais laisser tout de suite la parole à M. Sansalon pour des propos aussi liminaires qui laisseront place ensuite à un débat où j'espère que l'on pourra échanger de façon construite pendant un certain temps.
Merci, je vais attendre que les diapos arrivent à l'écran. Il y a 30% d'un message qui passe par l'oreille et à peu près autant par les yeux. Alors, je ne peux pas me priver de l'image et du son. Avec en préambule, si vous vous souvenez de ce par quoi j'ai conclu tout à l'heure, c'était l'évolution du contexte professionnel. Et dans cette évolution du contexte professionnel, elle avait des conséquences sur les compétences requises à présent. Je les rappelle rapidement. Démarche diagnostique, démarche de résolution de problèmes, qualité et sécurité des soins, avec un contexte d'exercice qui était celui des coopérations, dont il a été question tout à l'heure, à plusieurs reprises, et une organisation du processus de soins sur un territoire mêlant à la fois du sanitaire et du médico-social. Alors, sans beaucoup d'originalité, j'ai proposé sur la diapo d'ouverture une sorte de slogan pour résumer un peu la philosophie de la démarche de réingénierie des formations telles que nous la pratiquons et telles que vous la vivez. C'est qu'on passe d'une accumulation des connaissances à la mise en œuvre de compétences. C'est ce qui préside à la philosophie de la réingénierie des formations paramédicales. Diapo, s'il vous plaît. Donc, cette réingénierie, elle est rendue nécessaire par, en conséquence du contexte que je vous décrivais tout à l'heure, et elle oblige à passer d'une logique de contenu, je sais des choses, j'ai accumulé des connaissances pendant toute ma formation, des connaissances qui se sont accumulées, je sais des choses, à une logique de compétence qui consiste à savoir-faire. Un verbe de plus et ça change tout dans la démarche. Je le développerai dans la diapo d'après, mais ce n'est pas tout de suite. Donc, passer d'une logique de contenu à une logique de compétence pour permettre la mobilité, l'adaptabilité et l'autonomie de votre part. Il a été question tout à l'heure de la mobilité permise ou requise par le processus de Bologne. Certes, c'est la mobilité des étudiants. C'est avant tout celle des citoyens européens. Et si on veut que les citoyens puissent passer d'un pays à un autre facilement, il faut qu'ils aient l'assurance qu'ils seront soignés à peu près avec le même degré de qualité dans tous les pays. Alors, ce que je dis là vaut pour la prise en charge pour une démarche de soins, ça vaut pour n'importe quel contexte socio-professionnel. Toutes les professions ont à se réorganiser à l'aune de cette exigence européenne qui est la libre circulation des citoyens. Enfin, la réingénierie des formations paramédicales, elle vous permettra une évolution professionnelle. Donc, soit à l'intérieur du métier que vous exercerez, on a dit tout à l'heure, Madame Perruez a beaucoup insisté sur le fait qu'elle souhaitait, qu'elle revendiquait, mais nous y travaillons, rassurez-vous, que les professionnels puissent évoluer dans leur métier. Donc, dans le métier que vous exercez, il y a des évolutions, mais vous pouvez aussi décider d'évoluer dans un autre métier. Alors, proche ou pas du métier d'infirmier, puisque c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, et ce sera possible. Je vous le montrerai tout à l'heure, comment est-ce possible. Mais quelles que soient les évolutions que vous souhaitez, et aussi bien des évolutions personnelles, elles sont plus faciles avec des diplômes réingéniers. Au passage, la reconnaissance salariale n'a pas été oubliée. Pour ce qui est des personnels infirmiers hospitaliers, et je sais que quand je dis hospitalier, ça veut dire public, mais les deux fédérations de l'hospitalisation privée sont en train de négocier avec leurs salariés. En tout cas, pour l'hôpital, c'est déjà fait. Les infirmières passent de la catégorie B à la catégorie A, ce qui se traduit par une augmentation de leur rémunération entre 2 500 et 4 000 euros selon les moments de leur carrière. La diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la réingénierie des formations paramédicales, comme je vous l'indiquais, s'est passée d'une logique d'accumulation de connaissances à l'acquisition de compétences. Pourquoi une logique de compétences? Parce que la définition de la compétence, c'est un ensemble de savoir-faire, de comportements et de connaissances, on les retrouve quand même, mobilisés dans une action et adaptés aux exigences d'une situation. Chaque mot est pesé. C'est la même définition qui prévaut pour la mise en place des démarches de gestion prévisionnelle des métiers et des compétences ou d'emploi et des compétences, GPEC, GPMC, auxquelles a fait allusion Mme Perruès tout à l'heure. Les hôpitaux publics, mais je sais que le privé le fait aussi, se sont lancés dans ces démarches qui consistent à analyser les métiers. Ce qui veut dire qu'un professionnel, on l'évalue non plus seulement à travers le prisme du statut sous lequel il est embauché, fonctionnaire, convention collective, mais à travers l'exercice professionnel, c'est-à-dire il met en œuvre des compétences requises pour une activité. Donc s'il y a activité, il y a création, il y a production de quelque chose qui est évaluable. Et la compétence, c'est un ensemble qui regroupe des connaissances qu'on vous dispense. Vous apprenez des choses, elles s'accumulent et ça fait un ensemble qui est nécessaire, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi des savoir-faire, et dans les savoir-faire, il y a des savoir-faire procéduraux, des savoir-agir, des savoir-être. Bon, tout un ensemble de choses qui sont très bien connues des pédagogues. Madame Koslowski en parlera peut-être tout à l'heure, en tout cas elle en parlera sans doute beaucoup mieux que moi, mais c'est cet ensemble de choses qui constitue la compétence et que les instituts à présent, avec les établissements de santé, j'y reviendrai, puisque vous faites de nombreux stages en établissement, donc c'est cette action conjuguée de l'enseignement en école de formation, mais aussi les apprentissages en stage et la mise en pratique, et ensuite l'expérience. L'expérience fait partie du processus d'acquisition de compétences. Donc, tout au long de votre vie, vous continuez d'apprendre et vous acquérez des compétences. Ça modifie les conditions de l'accès au savoir, puisqu'il faut construire des savoirs pour vous permettre d'exercer en autonomie. On va vous dire ce qu'il faut apprendre. Après, la manière dont vous allez l'apprendre, il y en a une partie qui est dirigée à l'école, en institut, et puis il y a une partie qui est sous votre complète autonomie. C'est à vous d'aller dans les livres, c'est à vous de creuser un sujet, d'aller voir comment ça se passe, de pratiquer, de vous tromper. On apprend beaucoup par l'erreur. Ce qui n'est pas bien, c'est de répéter ses erreurs, mais sinon, l'erreur est un puissant moteur pour acquérir des compétences. Modification de l'accès au savoir à travers une logique intégrative et d'alternance, c'est-à-dire que progressivement, d'ailleurs vous le vivez pour ceux qui sont en troisième année maintenant, progressivement les stages prennent de plus en plus d'importance et la place qui vous est faite en stage devient plus importante. Et comme jeune professionnel, c'est la même chose. Quand vous arrivez dans une équipe, on vous en demande un peu moins que quand vous êtes un peu plus féru. On vous en demande un peu moins, alors peut-être pas en quantité, mais en densité de travail, on est plus exigeant au fur et à mesure que votre ancienneté avance. Et c'est l'alternance de ces moments d'acquisition de connaissances, d'apprentissage et de mise en pratique d'expérience qui fait que vous augmentez progressivement votre niveau de compétence. Enfin, tout ceci, cette modification de l'accès au savoir, se fait, je veux dire presque malheureusement, mais c'est le défaut de sa qualité, dans une logique de complexité. Tout à l'heure, ça a été évoqué, je l'ai dit, mais ça a été repris, le processus de soins, de prise en charge, est de plus en plus complexe, pluridisciplinaire, techniquement et intellectuellement, faisant appel à plus de choses, travaillant en équipe. Tout ceci rend lui aussi le processus d'apprentissage plus difficile. Ce n'est pas la même chose que d'apprendre tout seul un geste très technique et puis de devoir apprendre à plusieurs à mettre en œuvre une compétence collective. Diapo suivante. Donc, en ce qui concerne spécifiquement la réingénierie des formations paramédicales, il était devenu nécessaire d'améliorer le contenu des formations dans une logique non plus d'accumulation, mais de développement, chez vous, de capacités à rechercher et analyser les ressources à votre disposition. Donc c'est un processus itératif qui conduit à des modifications plus nombreuses. C'est pour ça que tout à l'heure, quand Mme Perruez militait pour que les programmes ne restent pas figés, je peux confirmer que les programmes ne resteront pas figés. Par construction même, la manière dont ils sont faits ne peut qu'amener les programmes à être revus régulièrement. Nous bâtissons un programme, et là je serai un petit peu plus long, sans diapo, nous bâtissons les nouveaux programmes à partir d'une analyse du métier. Donc le premier travail qui se fait, c'est de réunir les professionnels eux-mêmes, mais aussi ceux qui en usent ou qui en profitent, pour lister les activités qui sont les leurs. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous exercez le métier d'infirmière ? Ça donne une liste d'activités. Alors cette liste d'activités peut être modifiée, élargie, si on décide de faire acquérir des activités, si on veut que le professionnel exerce des activités nouvelles, notamment, en ce moment, c'est une question largement posée, pour chaque profession médicale, on est en train de regarder quels sont les actes qui pourraient être exercés par des paramédicaux. Et s'il y a accord sur ces actes, parce que la règle en France, c'est comme ça, c'est l'histoire, la règle, c'est que tout ce qui touche aux patients, il n'y a que les médecins qui ont le droit de le faire. Et par dérogation, d'autres professions peuvent faire certains actes, ce qu'on appelle, et ces actes sont listés dans un décret, c'est le décret de compétence. Donc chaque profession a la liste des actes qu'il peut exercer par dérogation au droit commun, qui est que normalement, il n'a rien le droit de faire, il n'y a que le médecin qui peut. Bon. Donc, à cette occasion-là, quand on liste les activités que vous pouvez faire dans votre métier d'infirmier, eh bien, on pourra en rajouter. C'est ce qu'on est en train donc de faire plus spécifiquement pour les infirmières spécialisées. On réfléchit là vraiment de manière concrète à ce qu'on peut ajouter au décret de compétences concernant les IADE, les IBOD et les PUR. Une fois qu'on a dressé la liste de ces activités, quelles sont les compétences requises pour réaliser ces activités ? On l'a vu, puisque la compétence, c'est un ensemble de savoir-faire, de savoir-être, de connaissances permettant de réaliser une activité. Donc j'ai mon référentiel d'activité, j'en déduis un référentiel de compétences. Là aussi, ce n'est pas le ministère qui fait ça tout seul dans son coin technocratiquement, c'est dans des groupes de travail où il y a un ensemble de professionnels. Madame Koslowski y a participé. Beaucoup de professionnels y participent chaque fois. Et ils participent à la fois des professionnels du métier et des professionnels des instituts de formation. Puisqu'il y a articulation en permanence. On a ce souci que soient associés ceux qui exerceront et ceux qui éduqueront, qui formeront ces professionnels. Donc, on est parti de la liste des activités. On en a déduit les compétences requises. Après, là, il y a un travail d'ingénierie de formation qui consiste à mettre au point le programme des études, c'est-à-dire le contenu des études, la manière dont les connaissances, les compétences seront acquises, la manière dont on les évaluera, le temps que ça prendra. Et là, on met l'université dans la boucle, puisque à présent, depuis ceux qui sont rentrés en 2009, il y aura, au bout du cursus, délivrance d'un diplôme universitaire. Donc vous voyez bien qu'on part d'une logique qui est le besoin de santé, le besoin d'actes de soins, l'activité, qui génère un besoin de compétences que l'on va couvrir par une offre de formation. Alors, cette offre de formation, diapo suivante, cette réingénierie de formation, elle a un impact au regard de l'activité liée aux soins. Donc on va vous apprendre à formaliser l'expertise. Alors, grâce à un corpus de connaissances, bon, dans la liste de ce que vous devez étudier, il y a une liste de connaissances à acquérir. On va vous permettre d'affirmer votre autonomie parce que, en permanence, vous aurez affaire de l'analyse de la pratique professionnelle et de l'analyse de la recherche clinique. C'est la signification des deux acronymes APP et ARC. Affirmez votre responsabilité puisque vous aurez une plus grande compétence en matière de réalisation d'actes. Notamment, on va vous apprendre à faire des diagnostics. Vous engagez votre responsabilité quand vous faites un diagnostic. Vous engagiez déjà votre responsabilité quant à la qualité de l'acte infirmier que vous réalisiez. Vous engagez votre responsabilité, comme le fait un professionnel médical. Il engage sa responsabilité sur le diagnostic qu'il pose et la thérapeutique qu'il propose. Ce sera pareil pour vous. On promeut la recherche paramédicale. Alors, on la promeut, là aussi je rebondis sur des propos de Mme Perruez. Alors, nous sommes à l'aube de la mise en place du processus LMD. Donc, il y a ceux qui sont rentrés l'année dernière ne sont qu'à présent qu'en deuxième année du processus qui les conduira à la fin de l'année 2012 à la reconnaissance d'un grade de licence. Derrière, nous mettons en place les moyens d'une filière universitaire en soins infirmières. Mais d'abord, ça ne dépend pas que du ministère de la Santé. Ça dépend des professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui voudront bien s'investir dans un cursus universitaire un peu long et mener des travaux de recherche pour obtenir un doctorat. Ça dépendra surtout, enfin autant en tout cas, de l'université qui voudra bien accepter la mise en place de ces filières et de la reconnaître ensuite par, nous l'espérons, la création d'un corps d'enseignants en soins universitaires, en soins infirmiers. Mais pour l'instant, tant que nous aurons le modèle actuel, mais c'est inévitable, hein, il fallait bien que l'on commence par quelque chose, donc on part de l'existant, avec ce que nous avons maintenant, eh bien, nous sommes à très court terme, en mesure de vous reconnaître le grade de licence à la fin de vos études, pour ceux qui ont commencé l'année dernière, je veux dire, ça va, c'est ça. L'étape d'après, mais elle se fera, c'est un processus continu, l'étape d'après, ce sera d'avoir des formateurs qui seront titulaires au moins d'un master, pour certains du doctorat, ce qui permettra d'avoir des filières universitaires. Si nous choisissons, j'y reviendrai tout à l'heure, que le modèle de formation doit absolument être intégré à l'université. Pour l'instant, nous conservons une spécificité qui est presque française, d'avoir des instituts de formation en soins infirmiers qui sont des écoles professionnelles, beaucoup plus rattachées à des établissements de santé qu'à l'université. L'université vient vous dispenser des savoirs, ce n'est pas elle qui vous délivre le diplôme, elle vous reconnaîtra un grade. Pas du tout dans la même démarche. Mais, bon, après, d'autres évolutions sont possibles. Acquérir le goût d'apprendre. Ben, on va essayer de ne pas casser cette dynamique qui fait que vous êtes plutôt content de venir. Enfin, pas forcément là, tout de suite, maintenant, mais vous êtes plutôt content d'avoir réussi à rentrer dans un institut en soins infirmiers et que quand vous le quittez, d'ailleurs, vous avez, en général, c'est comme ça pour beaucoup de gens, on est bien content d'avoir quitté les bancs de l'école et de commencer à exercer son métier, mais on a une petite nostalgie quand même parce que ben, apprendre, c'est quand même enthousiasmant. Alors pour cela, il existe dans le monde salarié des dispositifs réglementaires et légaux qui sont résumés par l'acronyme FTLV, c'est la formation tout au long de la vie. Il est mis en place dans les entreprises, et c'est particulièrement vrai à l'hôpital public, des dispositifs de formation professionnelle et continue qui sont quand même pas mal dotés et qui permettent des parcours professionnels et de mener des projets personnels, sans rapport avec l'hôpital d'ailleurs, qui peuvent être très aboutis. Développer des coopérations, on revient aux pratiques avancées qui ont été... Voilà, je ne reviens pas, c'est des choses qui ont été évoquées tout à l'heure, mais c'est pour vous montrer que ce qui a été dit tout à l'heure sur l'évolution professionnelle, eh bien, sans surprise, mais c'est quand même bien de le constater, On n'a pas déconnecté le processus de formation du processus de prise en charge. C'est les évolutions professionnelles que l'on retrouve dans l'évolution du dispositif de formation. Diapo suivante. Donc cet impact, on le retrouve aussi en matière d'enseignement et d'apprentissage. On va construire la formation selon une logique de séquence, des modules. Il y a des processus de médiation. Alors, à nouveau, hein, c'est un corpus de connaissances qu'il vous faut acquérir, mais on vous le fait acquérir d'une manière qui est peut-être un peu plus intelligente que par le passé, avec le principe du passeur, toujours la résolution de problèmes. Vous allez, chaque fois, je l'ai remis pour vous montrer que c'est récurrent, c'est pas déconnecté de la pratique professionnelle, c'est pas déconnecté de l'apprentissage, c'est pas déconnecté de l'évolution professionnelle et personnelle, ce sont les mêmes thèmes qu'on retrouve. Mais il y a quelques spécificités, comme notamment affirmer la place des établissements de santé. Une grosse partie de vos compétences, vous les acquérez quand même grâce à la mise en pratique, mais aussi parce qu'il y a des choses elles ne peuvent pas s'apprendre à l'école. Donc c'est forcément en pratiquant et c'est en établissement de santé, avec la fonction de maître de stage, de tuteur, et le professionnel, n'importe quel professionnel, alors pour les fonctionnaires, c'est dans leur statut particulier, n'importe quel professionnel a pour obligation celle d'accompagner un stagiaire qui lui est confié pour lui permettre une transmission du savoir. Toujours évaluer sa pratique. Alors, ça s'apprend. Il y a des outils méthodologiques qui permettent d'évaluer sa pratique. Un bon moyen aussi, c'est d'en parler ensuite. Hein. Donc ça, les hôpitaux, j'y reviens, les établissements de santé ont mis en place des démarches d'évaluation de la pratique professionnelle. Donc si on veut apprendre, si on n'a pas envie de rester statique, il n'y a pas de problème. Tant dans la démarche de soins que dans la démarche d'apprentissage, vous avez de quoi faire. Les moyens, alors peut-être pas pour financiers, vous estimerez qu'ils ne seront pas en quantité, mais en tout cas les moyens méthodologiques, réglementaires, sont là, ils sont à votre portée. Donc même impact sur l'évolution professionnelle et personnelle, on retrouve des choses que j'ai déjà dites. J'insisterai sur la possibilité de passerelle. Vous pouvez changer d'orientation en cours de carrière. Alors, ça veut dire que se mettront en place, alors c'est en train de se faire à l'hôpital, c'est déjà le cas dans les centres de lutte contre le cancer, dans le privé, enfin dans les établissements d'hospitalisation privée, je ne peux pas trop en parler, je ne connais pas bien leurs conventions collectives, mais on met en place des filières d'expertise. Trop souvent dans les modèles d'organisation des entreprises, quand vous êtes un bon professionnel, si on veut vous permettre de gagner plus, il faut vous faire évoluer vers la maîtrise, le management. Bon, tout le monde n'est pas taillé pour animer une équipe, et puis on peut être un très bon expert, un bon professionnel, un bon chercheur, et puis avoir moins le goût de l'encadrement d'équipe. Donc dans le système actuel, on se prive d'un bon expert quand on le promeut, et on n'a pas forcément en échange un bon cadre. Nous militons donc actuellement, nous réfléchissons à la constitution de filières d'expertise qui ferait que l'expertise serait autant reconnue financièrement que la maîtrise, que le management. Autre chose donc, sur laquelle je voudrais insister à nouveau, c'est du fait du L, la possibilité qu'il y ait des M et du D. On savait, en mettant en place la première pierre de l'édifice, la reconnaissance du grade de licence, que derrière, ben, il y aurait des reconnaissances de master, peut-être des reconnaissances de doctorat, mais qu'en tout cas, il y aurait une demande de la part des professionnels pour pouvoir passer des diplômes universitaires cette fois. Non pas avoir la reconnaissance d'un grade, mais bien d'obtenir des diplômes universitaires, s'inscrire dans des filières universitaires. On y réfléchit pour partie, c'est déjà mis en place pour d'autres. D'ores et déjà, il y a 200 bourses l'année dernière, ce sera 200 chaque année, de bourses de recherche en soins infirmiers qui ont été accordées. Je conclurai sur la diapo suivante, sur l'importance de former des professionnels compétents. Jusqu'à présent, on évaluait surtout l'accumulation des connaissances. On n'évaluait pas forcément les compétences. Et cette évaluation des compétences, elle se fait dès l'école, mais elle continue dans la vie professionnelle. toutes les institutions à présent, l'hôpital n'y échappe pas, mettent en place des démarches d'évaluation des compétences. Ça vous paraît naturel ? C'est une révolution au sein des entreprises, notamment de la fonction publique, où dans la fonction publique, le repère, c'est le grade, c'est le statut, mais pas le métier qui est exercé. En termes de gestion et de reconnaissance, sur sa feuille de paye, vous n'avez pas le métier que vous exercez, il y a un grade. Alors pour les infirmières, ça tombe bien, ça commence par infirmière de classe normale, de classe supérieure. Il y a le mot infirmière, mais ce n'est pas le cas pour, par exemple, un cuisinier. Il est ouvrier professionnel, ou il est maître ouvrier, ou il est contremaître, mais ça ne dit pas le métier qu'il exerce. Enfin, ça représente pour les professionnels un changement de perspective. Vous le mesurerez, j'espère, en sortant, ou peut-être le mesurez-vous déjà. La possibilité d'évoluer est vraiment beaucoup plus importante qu'auparavant. Auparavant, vous étiez un peu enfermé dans une filière. La construction des formations en modules, en unités d'enseignement, permet de comparer les formations entre elles. Et notamment, on peut s'assurer ainsi qu'une formation est, en termes de niveau, équivalente à une autre. Et que la biologie telle qu'elle est dispensée dans le module en IFSI, eh bien, vaut la biologie telle qu'elle est dispensée, peut-être, hein, je m'avance, je ne le connais pas complètement, mais telle que le module de biologie est dispensé en DOC de première année, est équivalente. Et dans ce cas-là, si vous souhaitez bifurquer et reprendre des études, on ne vous demandera pas de repasser le module de biologie, vous l'avez déjà fait en IFSI. Voilà. L'avenir de l'appareil de formation, et c'est le dernier mot, cet avenir, est-ce qu'il est encore avec des écoles hospitalières ou adossé à des établissements de santé, ou est-ce qu'il est à l'université ? C'est la question de demain.
Juste avant de passer le micro à Mme Kozlowski pour son intervention, vous aviez témoigné, en tout cas, que l'évolution serait plus facile, notamment vers de la poursuite d'études pour les étudiants qui seront titulaires du diplôme d'État en 2012, le diplôme d'État de la réforme. Mais du coup, que se passe-t-il pour ceux qui auront eu le diplôme d'État et qui sont nombreux dans cette salle, sans être sous le coup de cette réforme ?
Alors, la réponse n'appartient pas au ministère de la Santé, puisque nous parlons là, désolé, ministère de la Santé, nous sommes là pour vérifier que les formations qui sont dispensées aux professionnels permettent une prise en charge de qualité des patients. Vous voyez à quel niveau on intervient. La reconnaissance universitaire, je veux dire que ce n'est pas notre... ce qui nous préoccupe en premier lieu. Que ça vous préoccupe, vous, je l'entends bien. Mais je pense que pour un patient, que vous ayez une licence, un master ou un doctorat, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de savoir si l'acte que vous lui dispensez, si le soin que vous lui faites, il est de qualité. Et c'est, dans son esprit, c'est complètement indépendant du niveau universitaire qui peut être le vôtre. Pour autant, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes quand même... Enfin, nous accompagnons cette évolution, puisque si vous avez le grade de licence, c'est bien parce que le ministère de la Santé se donne du mal pour que le programme de formation que vous suivez rentre dans les impératifs de l'université. L'université ne donne pas une licence comme ça, simplement parce que le ministère de la Santé lui dit, bah, tiens, on a des étudiants, ils passent 3 ans sur les bancs d'un IFSI, bah, 3 ans, ça fait une licence, tiens, allons-y. Bon, c'est pas comme ça que ça marche. Ils expertisent le contenu. C'est vrai pour la licence et c'est ce qui fait qu'un tiers des enseignements qui vous sont dispensés, les enseignements théoriques, sont labellisés enseignements universitaires. C'est ça qui fait que vous aurez à la fin le grade de licence. Pour le master, l'université est encore plus présente. Parce que là, ce n'est pas un tiers des enseignements, alors on ne sait pas encore, on est en train de déplacer le curseur. Enfin, ce sera largement plus que la moitié, voire les 3/4. Alors ensuite... Quand on met en place un nouveau dispositif, ben on regarde si ceux qui étaient avant le dispositif, ils ont les mêmes compétences. Donc, et ça, c'est l'université qui va le regarder. L'université a la charge. Donc, il appartient aux professionnels, individuellement, de saisir l'université de leur choix pour se voir reconnaître le niveau licence pour le diplôme qu'ils ont passé, en produisant le programme des études, parce qu'il pouvait être légèrement différent d'un lycée à un autre. Et puis, à côté de leurs études en soins infirmiers, vous avez pu suivre des enseignements divers et variés au titre de la formation continue ou déjà dans des universités. Et c'est l'ensemble et votre expérience professionnelle, c'est la VAP, hein, la valorisation des acquis professionnels, l'ensemble de ceci sera examiné par une commission universitaire qui décidera de la reconnaissance ou non du grade. Et le fait de se voir reconnaître un grade vous permet ensuite la poursuite d'études à un autre niveau. L'université le fait déjà à cet égard. Il n'y a rien de très original. Déjà, des infirmières de, je vais dire, l'ancien programme, celui de 1992, déposaient des dossiers à l'université pour suivre un master en sciences de l'éduc ou en des licences en management. L'université, rarement, je pense, mais vous me le confirmerez, donnait tout de suite le niveau licence, mais leur disait, ben, pour avoir votre licence en management ou votre master en sciences de l'éduc, je vous dispense de suivre tel et tel enseignement. Vous voyez, mais c'est vraiment du cas par cas, et ça procède par équivalence et donc ensuite par dispense d'enseignement.